Radio Kapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité ce soir. Le procès dans l'affaire Boukangalonzo est renvoyé au 16 octobre au motif que de tous les prévenus, seul Augustin Matata Ponyo s'est absenté à l'audience d'aujourd'hui. L'ancien premier ministre congolais serait malade. La Cour constitutionnelle parle d'un dilatoire. Et puis au procès de Salomo Kalonda, la Cour militaire a renvoyé l'audience au 9 octobre suite à l'état de santé du prévenu jugé dégradant selon un rapport médical. Une personne tuée et deux autres grièvement blessés par des hommes armés tôt ce matin dans la localité d'Abinva, groupement d'Ambarao, dans la chefferie de Logo, territoire de Faradje. Nous sommes dans la province du Haut-Ouélé. Notre invité, c'est le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï. Alain Tshisungu parle des mesures qui ont été prises pour mettre fin à l'insécurité à Tshikapa. Il affirme que certains bandits qui sèment terreur et désolation dans cette ville ont été arrêtés. Madame, Messieurs, bonsoir. Justice pour commencer ce journal. La Cour constitutionnelle accorde une remise contradictoire à toutes les parties au procès de Boukangalonzo au 16 octobre prochain. Appelé à comparaître de tous les prévenus, seul Augustin Matata Ponyo s'est absenté à l'audience publique de ce lundi à Kinshasa. Selon sa défense, avec un rapport médical de son médecin présenté à la Cour, l'ancien premier ministre congolais serait malade et un repos médical de 45 jours lui serait accordé. C'est que la Cour a rejeté, considérant cet argument comme un dilatoire. La Cour a ainsi décidé d'une remise de 3 semaines, exigeant ainsi sa présence physique. Et puis au procès de Salomo Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi-Tchapwe, la Cour militaire a renvoyé l'audience au 9 octobre prochain. Ce renvoi est justifié par l'état de santé du prévenu jugé dégradant, selon un rapport médical de son médecin qui a été présenté séance tenante aujourd'hui à la prison militaire d'Ndolo. L'opposant politique et un colonel des FARDC en fuite sont poursuivis pour notamment trahison, désertion et incitation des militaires à commettre un acte contraire à la loi. Toutes les prisons de la RDC sont actuellement au rouge, alerte le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Emmanuel Adou Kolé affirme que sur plus de 12 000 détenus à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, seuls 10% condamnés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ce constat a été fait lors d'une visite effectuée ce week-end à la prison de Makala. Il demande par conséquent au procureur général, près la Cour de cassation, d'instruire les magistrats à fixer au plus vite les dossiers au procès et de mettre fin au surpeuplement de la prison de Makala. Emmanuel Adou Kolé s'est confié à Jeff Ngoy.
Après avoir visité les prisons centrales à Makala aujourd'hui, j'ai constaté la surpopulation. J'ai constaté que le nombre de prévenus dépasse les prisonniers condamnés. À la preuve que nous avons 12 168 quelques, mais il y a seulement 2200 condamnés. Et ce qui est regrettable. Les zones dans lesquelles nous demandons le procureur près de cassation de mettre la pression sur sa magistrat pour que les prisons soient dégorgées. Parce que plusieurs cas en suspens au niveau de magistrature et on suit le coup et tribunaux qui attendent pour qu'on donne l'argent pour faire les prononciations. S'il n'y en a pas, et ça soit sur le dossier. Bien que le nouveau procureur nommé fait la promesse, mais c'est une promesse comme un slogan. Tout le monde fait ça, mais l'action concrète est zéro.
Autre nouvelle sur Radio Kapi ce soir. Dans la province du Haut-Ouélé, une personne a été tuée par des hommes non identifiés. Deux autres grièvement blessés à l'arme blanche ont été acheminés dans un centre hospitalier pour des soins appropriés. L'incident s'est produit tôt ce matin dans la localité d'Ambiva, groupement d'Ambarao, dans la chefferie de Logo, territoire de Faradje. À Kisangani, le récit de Jacques Mkongolé.
D'après le président honoraire de la société civile de Faradjé, les habitants de la localité Ambiva ont été surpris par des coups de feu tirés par des inconnus. Ceux-ci tentaient de forcer une maison de recharge M-Pesa. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, vendeur de bière se trouvant dans une maison d'à côté, a crié pour alerter les voisins. Pour le faire taire, ces malfrats ont tiré et a été atteint mortellement. Étienne Tandé les précise qu'après leur forfait, ils ont emporté de l'argent dont le montant n'est pas encore connu, ainsi que d'autres biens de valeur. Par ailleurs, il déplore le fait que les militaires et les policiers présents dans cette localité ne soient pas intervenus et la population a fouillé dans tous les sens. L'administrateur du territoire confirme les faits. Emmanuel Mandrandele regrette surtout le fait qu'en dépit des rapports déjà transmis à sa hiérarchie, les autorités compétentes n'ont toujours pas réagi favorablement. Il précise qu'il a toujours sollicité le renforcement des effectifs des militaires ainsi que des policiers pour la sécurité aussi bien des populations que de la frontière avec le sud du Soudan. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Voilà qui nous conduit maintenant au Nord Kivu où la société civile de la localité de Mamové dans le territoire de Beni affirme que les rebelles ougandais de l'EDF ont tué une dizaine de personnes et enlevé 10 autres en une semaine. Le président de cette structure citoyenne indique que c'est suite aux attaques perpétrées sur les villages de Kalalangwe, Mandimo, Mutwei, Mapendo et Mambou dans le secteur de Benimbao. Il appelle par conséquent à l'élargissement des opérations conjointes FARDC-UPDF afin d'assurer la protection des civils et de leurs biens. Kinos Katuo a été joint par André Kitenge.
Ces ennemis de la paix ont fait un mouvement grave au bord de la rivière Samboko, limite avec la province du Nord Kivu. Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre, 4 personnes ont été tuées à Kalalangwe, 4 à Mandimo, 4 à Mutwei, Mapendo, 2 personnes à Mambau. Au total, 14 personnes ont été tuées à l'intervalle d'une semaine, plus 10 personnes portées disparues. À l'est de Mamové, vers la rivière Samboko, nous avons identifié 6 bastions. Au nord-est de Beumanyama, nous avons identifié 4 bastions. Au gouvernement congolais d'élargir les opérations conjointes dans nos entités, nous réclamons la présence de l'IPDF pour venir renforcer les FARDC qui ont beaucoup travaillé dans ces contrées. Cela nous assurera l'évacuation libre et la protection des écoles et les centres de santé qui se trouvent dans ces contrées.
Nord Kivu encore, l'insécurité menace dangereusement les gorilles de montagne dans le parc national de Virunga et ceux des plaines de Kahuzi-Biega, rendant ainsi difficile leur conservation. C'est ce qu'affirme en tout cas le chargé des relations extérieures et engagement communautaire de la Fondation Virunga. C'était à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux gorilles. Méthode arrosée s'est confiée à Denise Lukeso.
Surveiller pas totalement comme c'était avant, suite aux situations qui se sont passées dans notre province. On continue à faire le suivi à distance à travers les communautés locales qui sont restées présentes dans la zone et qui continuent à nous envoyer des informations par rapport à toutes ces familles de gorilles. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous les équipements possibles pour savoir exactement la situation réelle, mais jusque-là, on n'a pas eu les informations d'un cas de meurtre d'un gorille. On pense que dès que la guerre va prendre fin, on pourra avoir la vraie situation des gorilles dans le Virunga. Menacé, oui, parce que les équipes qui étaient en charge de faire les suivis quotidiens de ces gorilles ne sont pas aujourd'hui sur le terrain. On pense que c'est un danger et c'est un grand risque, mais en termes généraux, il y a eu beaucoup d'avancées dans les suivis des gorilles. Donc la situation était déjà très bien stabilisée et maîtrisée, sauf qu'il y a eu seulement cette vague qui a embarrassé toute la province, qui impactera effectivement sur les gorilles de montagne qui sont dans la zone de Mikeno.
L'actualité, c'est aussi la fin ce week-end de la 4e campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite au Centre médical Diamant de la ville de Lubumbashi. En l'espace de 2 semaines, en effet, 22 enfants ont été opérés à cœur ouvert avec succès, ce qui a fait la joie des parents dont la plupart avaient déjà perdu espoir. Reportage à Lubumbashi de Jean Ganduka Bongo.
Ma fille qui a 10 mois, piquait de crise de respiration.
Elle s'est fatiguée à l'école, on l'a soulevée seulement. Elle a étudié avec beaucoup de difficultés. Ces soucis et autres plaintes étaient aussi ceux d'autres parents dont les enfants souffrent des malformations cardiaques congénitales. Désormais, ils appartiennent au passé. Pour le moment, c'est plutôt le sourire qui illumine le visage des parents et de leurs enfants. C'est ainsi que lors de la cérémonie de clôture de la 4e campagne, on a vu la petite Anifa laisser sa mère et aller se jeter dans le bras d'une infirmière qui est parmi la dizaine des membres de l'équipe médicale venue des États-Unis pour mener cette activité. Cette dernière la prend sur ses jambes et esquisse un sourire en tapotant les joues de la petite Anifa avant de lui remettre un bâton de chocolat. Parmi les heureux parents se trouve aussi Lydie Witemo Chimanga, dont l'enfant a été opéré car elle avait une grande malformation cardiaque. Émue, sa mère manque de mots pour exprimer sa joie.
À 8 jours de sa naissance, on l'a opérée et aujourd'hui elle a 20 jours, elle se porte très bien, elle respire normalement et comme vous le voyez là, elle est en bonne santé.
D'après Karim Tardjin, directeur général du Centre médical Diamant, ces opérations portent à 73 le nombre d'enfants qui ont été opérés en plein cœur et cela avec 100% de réussite. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre au Congo central, les camionneurs qui sont actuellement en grève depuis le 18 septembre viennent d'accepter d'offrir un service minimum. Un accord a été trouvé à ce sujet hier soir avec les bons syndicales des transporteurs et le ministre provincial des Transports et Voies de Communication et l'Inspection du Travail. Le ministre des Transports précise à Radio Kapi que ce service minimum permettra ainsi de désengorger les ports de la province du Congo central où sont actuellement bloqués plusieurs produits de première nécessité, pharmaceutiques et des vivres. Mac Matondo dans ses propos recueillis par Nana Plurichmambou.
Nous avons d'abord analysé toutes les revendications, il y en avait 11. Parmi les 11 revendications, il n'y a que 2 que la province peut donner la solution. Pour les restes, c'est Kinshasa. Il s'agit de la prolongation de la durée du Get Pass, un document qu'on donne aux chauffeurs pour accéder au port MGT pour déposer les conteneurs ou récupérer les conteneurs. Et ce Get Pass a une durée de 24 heures. Alors, ils ont sollicité qu'on puisse prolonger. Pourquoi? Parce que quand vous dépassez les 24 heures, il y a des pénalités. Et nous avons demandé à MGT de prolonger cette durée de 24 heures à 72 heures. D'aider s'agissant de l'entrée des véhicules au niveau d'Imposo, nous leur avons dit que la province avait déjà acheté un site où nous allons construire un parking sécurisé où tous les véhicules seront réceptionnés là-bas. L'importance de ces services minimum, parce que d'abord, actuellement, les bateaux sont au niveau de mouillage, les bateaux ne savent pas décharger. Au niveau du port, certains véhicules ont été déjà chargés. Ils ne savent pas approvisionner leurs magasins respectifs. Et Kinshasa ne sait pas recevoir les produits de première nécessité. Alors que nous avons besoin des produits pharmaceutiques, besoin de vivres frais. Déjà, on nous a appelé à Kinshasa et la farine commence à poser problème.
Actualité internationale.
La situation n'était plus tenable. À l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec le régime militaire nigérien, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer dimanche soir le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait définitif du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année 2023. Ce sera le point sur les rapatriements de 1500 soldats français présents au Niger. Et puis au Mali, les autorités de transition annoncent le report de l'élection présidentielle. C'est officiel, en effet, depuis ce lundi matin, l'élection présidentielle qui était prévue en février 2024, dans moins de 5 mois, est reportée à une date ultérieure qui n'a pas été précisée.
L'invité.
Notre invité, c'est le ministre provincial de l'Intérieur du Kassai, Alain Tshisungu, parle des mesures qui ont été prises pour mettre fin à l'insécurité à Tshikapa. Il affirme que certains bandits qui sèment terreur et désolation dans cette ville sont actuellement aux arrêts. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Alain Tshisungu, bonjour.
Bonjour.
Dans la province du Kassai, quelle est la situation sécuritaire?
Il est certes vrai qu'à un certain moment, nous avons connu des cas d'insécurité sur l'ensemble du territoire de Tshikapa. Mais c'est une situation qui est suivie à la loupe. Et à ce jour aussi, je peux vous dire que nous sommes en train de tendre vers la sécurisation totale de la province. Donc, il n'y a plus de paix. Vous aussi, vous pouvez le savoir comme nous, que les criminels opèrent la nuit. Et nous sommes là la journée. Nous sommes en train de les suivre même la nuit pour un peu maîtriser, puis savoir comment éradiquer définitivement. Pas totalement, évidemment, parce que l'insécurité zéro n'existe pas, mais on va faire ce qu'on peut pour que la population puisse vaguer librement à ses occupations.
Alors, dernièrement, vous avez pris certaines mesures dans la circulation de motos. Et cette mesure, elle reste en vigueur. Comment vous faites pour la renforcer? Nous avons constaté la circulation de taxis à moto après les heures prévues.
Évidemment, la mesure a été prise. C'est une mesure sécuritaire. Il y en a qui pensent que c'est par plaisir qu'on interdit aux gens de se promener après 21 heures. Mais c'est une mesure étudiée, planifiée par le Conseil de sécurité. C'est pourquoi nous l'avons prise. Il n'y a pas seulement celle-là. Vous avez aussi appris que nous avons procédé à l'interdiction de fonctionnement d'un bon nombre de maisons de gardiennage. Ils emploient un bon nombre d'agents. C'est aussi une mesure sécuritaire. Donc tout ça, ce sont les moyens que nous avons pour pouvoir contrôler un peu, sécuriser la population.
Ces mesures vous ont donné comme des résultats depuis qu'elles ont été prises? Observez la situation actuelle de Chikapa.
Nous avons des résultats parce que l'ennemi qui opérait nuitamment avec les motos, à ce jour aussi, ne savent plus opérer. Ils ont changé les modes d'opération et nous aussi, nous avons changé les modes de les traquer. Donc, ils ont compris que nous avons découvert par quel moyen ils entraient à Chikapa, par quel moyen ils sortaient à Chikapa. Ils essaient de changer et nous aussi, nous nous sommes adaptés à leur nouveau mode là d'opération. Si la mesure reste en vigueur, je vous dis qu'elle reste en vigueur jusqu'à ce que le Conseil de sécurité qui a décidé cette mesure puisse encore revenir là-dessus. Mais pour le moment, nous continuons à traquer les motos qui sonnent la nuit. Vous savez, il est difficile que tout le monde comprenne que cette mesure ici est louable. Il y en a qui pensent que c'est pas plaisir qu'on a pris ça. Et ceux qui s'emploient à sonner la nuit, c'est leur affaire. Il y a évidemment une catégorie de gens qui peuvent sonner la nuit, tels les médecins, qui au milieu de la nuit est appelé pour aller intervenir. Je pense que s'ils se trouvent devant la barrière, ils montrent, ils disent l'urgence qu'il a, on va laisser passer. Tel un journaliste comme vous, là, vous revenez d'une émission à 22h, vous vous présentez vous-même, on doit vous laisser passer. Il y a un bon nombre de personnalités. Si on sait voir que vous êtes en règle, vous pouvez passer, mais il y a toujours des gens qui en abusent aussi.
Il y a cette psychose qui continue à régner. Quand vous entendez les gens parler, ils disent toujours que nous ne sentons pas totalement en sécurité. Qu'est-ce qui peut rassurer cette population actuellement?
Vous savez, il y a un bon nombre de malfrats que nous avons maîtrisés à cause de ces mesures que les gens par moments minimisent ou bien ne veulent pas respecter.
À vous entendre parler, c'est un problème de gens qui détiennent les armes sans contrôler. Est-ce que vous avez quand même l'idée de toutes ces personnes? Parce que au moins, les gens peuvent être assurés qu'ils sont en sécurité.
Ce sont des gens qui sont encore jusque-là devant les instances. Hein. Je ne voudrais pas vraiment entrer là-dedans, mais je vous dis que ceux qui ont opéré dernièrement sur la ville, ces réseaux-là sont en train d'être démantelés petit à petit. Je pense que nous allons vous les présenter. Vous comprendrez que le travail que nous faisons a produit les fruits. À la population kassaïenne, en général, c'est la ville de Chikapa d'être calme. Nous travaillons pour la sécurité de toute la province et spécialement ceux de Chikapa où ces phénomènes n'avaient plus de l'ampleur.
Monsieur Alain Tshisungu, nous vous disons merci.
Merci.
C'était donc l'invité de Radio Kapi, le ministre provincial de l'Intérieur de la province du Kasaï. Alain Tshisungu parlait des mesures prises pour mettre fin à l'insécurité à Chikapa. Il affirmait que certains bandits qui sémaient terreur et désolation dans cette ville ont été arrêtés. Ils s'entretenaient avec François Kadima. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Alouzi Tukabambi et Richard Junior Kamunga qui m'ont accompagné.